nzamba
nzambira samirana
Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, c'est le journal de la radio Inzambagate Kakawe. Bienvenue, nous sommes le 6 août 2021. D'abord les titres. Un homme a succombé aux tortures au cachot du service provincial de renseignement à Chiwitoke. Des sources sur place en confirment les faits et précisent que la victime était accusée de collaborer avec les groupes rebelles. C'est un rapport mensuel qui dresse un bilan négatif dans la défense des droits humains. La Ligue Iteka publie un effectif de 31 personnes tuées, dont 9 femmes et 4 enfants au cours du mois de juillet. Et au moment où le nouveau rapport du ministère de la Santé annonce 217 cas de personnes testées positives au 3 août 2021, le collectif des défenseurs des droits humains CAVIB dénonce de son côté une mauvaise politique de prévention de cette pandémie, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. À la présentation, vous êtes avec Josine Kazé. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Droits de l'homme pour commencer, un homme a perdu la vie au cachot des services de renseignement en province Chiwitoke après 3 jours de torture. Des sources au sein des services de renseignement à Chiwitoke indiquent que la victime n'a jusque-là été identifiée. Son corps a été sorti de cette maison dans la petite matinée de ce vendredi. Les mêmes sources affirment que cet homme était accusé de collaborer avec les groupes rebelles. Les détails avec Josephine Jones-Hundimana.
L'homme avait été amené dans les cachots du service national des renseignements par le véhicule du responsable de son service à Chiwitoke dans l'après-midi de mardi cette semaine, selon nos sources dans cette province. Des habitants proches du siège du CNR affirment également l'avoir vu. Ils ajoutent qu'ils ont entendu des cris qui devraient être du même homme. Celui-ci, en criant, répétait chaque fois qu'il n'appartient à aucun parti politique ni à aucun groupe armé. Des sources proches du service national des renseignements en Chiwitoke, sous couvert d'anonymat, indiquent que la victime était accusée d'appartenir à des groupes armés opérant en République démocratique du Congo. Il était aussi accusé d'avoir tenté d'espionner les positions militaires de Chiwitoke. Depuis son arrestation, le détenu n'avait reçu aucun aliment. Il est décédé dans la nuit de ce jeudi au vendredi. Un véhicule est sorti à 3 heures du matin avec le corps sans vie de l'homme, précisent les mêmes sources au service des renseignements qui affirment qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas parler à qui que ce soit sur ce qui s'est passé. Des habitants de la localité pensent que le corps sans vie aurait été acheminé pour être jeté dans la rivière Rusizi. Ils affirment que beaucoup d'autres gens ont été tués dans ces mêmes conditions et jetés dans cette rivière. Dénonçant cette pratique, ils estiment que celui qui est accusé ou soupçonné d'un crime devrait être traduit en justice au lieu d'être tué. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore eu la version du responsable des services de renseignement dans la province de Chiwitoke.
31 personnes, dont 9 femmes et 4 enfants, ont été tuées au cours du mois de juillet de l'année en cours. 5 ont été torturées, tandis que 20 autres ont été arbitrairement arrêtées. C'est ce qu'annonce le rapport mensuel de la Ligue Iteka. Les présumés auteurs de ces violations, selon le rapport, sont des jeunes Imbonerakure du sein des DFDD, des policiers, des agents du service de renseignement, des militaires et des administratifs. La Ligue Iteka demande à la population de rester solidaire et de ne pas céder aux sollicitations divisionnistes. Les détails avec Vanessa Mohiteka.
Le rapport a dénombré 31 cas de personnes tuées, dont 9 femmes et 2 enfants. La province de Chiwitoke vient en tête avec 6 cas. Vient ensuite Bujumbura Mary avec 5 cas. Gitega, Karusi, Muyinga ont enregistré respectivement 4 cas. La province Kayanza en a connu 3 cas. Bururi, Kirundo ont recensé chacune 2 cas au moment où, dans les provinces de Karusi, Bujumbura, Makamba, Moravia, Ngozi, Rumonge, Hutana et Ruigi, une personne a été tuée dans chacune de ces provinces. Pour 10 cas d'enlèvement, la Ligue Iteka a pu connaître 7. Dans la province de Ngaro, 3 personnes ont été enlevées. Bururi, Bujumbura Mary, Rumonge, Gitega et Makamba ont enregistré chacune un cas d'enlèvement. Le rapport de l'Igiteka parle de 9 cas de violence basés sur le genre. La province de Karusi vient en tête avec 4 cas. Bujumbura Rural, Muramvya, Muyinga, Rumonge et Rutana ont respectivement connu un cas. Des 5 personnes torturées, 3 sont de la province Bubanza, 2 autres de la province Karusi. Le rapport évoque également des cas d'arrestation arbitraire. Il en a engrainé 20, dont 2 femmes. 6 ont été arrêtés à Karusi, 3 à Mwaro, tandis que Bururi, Chankuzo et Rumonge ont connu chacune 2 cas. Les présumés auteurs de ces violations, selon la Ligiteka, sont les jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, les agents du service de renseignement, les policiers, les militaires et les administratifs. La Ligiteka demande à la population de rester solidaire et de ne pas céder aux sollicitations divisionnistes ou toute autre sollicitation les appelant aux actes de violence.
2 personnes ont été libérées par l'administration à la base dans la commune Mugamba, sur la colline Mugendondego. Il s'agit des gens suspectés d'avoir participé dans l'assassinat d'une mère et de sa fille récemment reportée sur cette colline. Le point avec Benny Axelakana.
Selon les informations recueillies auprès des habitants de la colline Mugendondengo de la commune Mugamba, la nommée Béatrice Njutina Magala a été libérée par la police sur demande de l'administration à la base. Elle venait de passer 4 jours dans le cachot de la police de Mugamba. Elle est suspectée pour avoir participé dans l'assassinat de l'enseignante Régine Niyonguru et sa fille dans la soirée du 2 août à leur domicile sur la colline Mugendondengo. Les suspects de cet homicide ont passé la soirée chez elle en buvant de la bière locale. Mais son mari est toujours emprisonné pour des raisons enquête. Et l'autre personne qui a été libérée ce mercredi est le beau-frère de la défunte, Pierre Claver Louvouto. Pour le moment, 5 personnes sont en prison tout en sachant que le berger qui gardait le troupeau de la défunte est toujours en fuite. Il a été soupçonné par les habitants de la colline après avoir tenté de vendre 4 vaches appartenant à la famille après leur assassinat.
Inzamba.
Parlons santé à présent. 217 personnes est le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en date du 3 août 2021. Ces chiffres sont fournis par le ministère de la Santé publique dans tout le pays depuis l'apparition de la maladie au Burundi. Ce ministère dénombre près de 8000 cas confirmés, dont 10 cas de décès. Le contenu du rapport du ministère de la Santé avec Blaise Nijimbele.
Ce rapport du ministère de la Santé publique nous montre que les 217 cas positifs proviennent de 3178 personnes testées, soit 6,83%. Ces tests ont été réalisés dans 9 sites. Parmi ces sites se trouvent différents districts de santé, l'aéroport international de Bujumbura et les postes frontières de Gatumba, Kobilo et Nyanzarak. Au cours de ces derniers jours, du 28 juillet au 3 août, 10624 personnes ont été testées avec 1066 cas COVID-19, soit 5,43%. Ce rapport montre que le Burundi a connu une période de résurgence à partir du 21 juillet. À partir de cette date, la moyenne journalière est passée de 30 cas COVID-19 à 140. 2 flambées épidémiologiques ont été confirmées au district sanitaire de Kiremba en province de Ngozi, avec 551, soit 28,95%, et à Kirundo avec 496, soit 26,22%. Depuis la découverte du premier cas COVID-19 au Burundi, 426 056 personnes ont été dépistées. Parmi elles, il y a eu 7931 cas confirmés, 7345 cas sont guéris, 569 personnes actives sont encore sous traitement, de 3 cas graves admis à l'hôpital de Kirundo et à l'hôpital de Kiremba. Le ministère de la Santé publique précise que 10 personnes ont été emportées par cette pandémie.
Inquiétude chez les responsables de la santé en province Muyinga face au relâchement des mesures barrières de prévention du coronavirus. Ces responsables ainsi que les autorités locales demandent à la population de changer de comportement pour continuer à lutter contre cette pandémie. Les détails avec Delicia Kamikazi.
Les autorités administratives et celles en charge de la santé dans cette province se disent inquiétées du non-respect des mesures barrières de lutte contre la pandémie de COVID-19 par la population de cette localité, telle que dictée par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le SIDA. Pourtant, s'étonnent ces autorités. La pandémie de COVID-19 est présente dans cette province, même si la situation n'est pas alarmante. Dans des endroits très fréquentés par beaucoup de gens, comme les marchés, il n'existe plus de dispositif de lavage des mains. Là où ces derniers existent encore, les récipients sont à sec. Selon nos sources à Muyinga, à l'entrée de certains bâtiments commerciaux, même les bureaux publics qui ont des points de lavage des mains bien fonctionnés, les usagers de ces lieux passent sans se laver les mains. Sans oublier de signaler aussi que les gens se saluent encore en se serrant la main ou par des accolades. Dans le transport en commun, rares sont les voyageurs qui portent des masques. Toutes ces mauvaises pratiques concourent à la propagation du coronavirus, regrette-t-on. Face à cette méconduite de la population, les autorités exhortent cette dernière à se protéger et à protéger les autres.
Et dans le contexte, le monde entier s'active dans la lutte contre le COVID-19. Il est clair que le Burundi ne s'acquitte pas des obligations pour bien mener la lutte contre cette pandémie. Cela transparaît dans une analyse du CAVIB, le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi. Maître Emmanuel Ngengrutse, le vice-président de ce collectif, explique qu'il y a des obligations non tenues par les autorités burundaises, notamment des mesures sanitaires contre le COVID-19 et la campagne de vaccination mondiale contre la pandémie. Maître Ngengrutse trouve que c'est un crime contre le peuple burundais auquel l'autorité pourra bientôt répondre devant la justice. On l'écoute.
Dans le contexte de la lutte contre le COVID-19, nous avons analysé les mesures déjà mises en œuvre pour lutter contre la pandémie et les avons trouvées insuffisantes. Nous avons plutôt constaté que le Burundi porte atteinte au droit à la santé reconnu à l'ensemble de sa population. Le Burundi a l'obligation de consacrer le maximum de ressources disponibles au secteur de la santé. Mais si on analyse le budget de l'année en cours, qui a été voté après l'éclatement de la pandémie au Burundi, nous constatons que le budget affecté à la santé est de 2,2% uniquement, pendant qu'il s'accroît de 40,1% pour les services de la présidence de la République du Burundi, de 30,3% pour la tête de l'exécutif, et il accroît de 17,7% pour le Parlement, Assemblée nationale et Sénat réunis. Cela ne peut s'interpréter autrement qu'en manque de volonté, ce qui constitue une atteinte au droit à la santé. Dans la même optique, il est fait obligation aux États parties dans le Burundi de mobiliser toutes les ressources sanitaires, tant publiques que privées, et à répartir dans toute la population afin d'apporter à la crise une réponse globale et coordonnée. Le devoir des États de vacciner les populations contre les principales maladies infectieuses et de prévenir et maîtriser les épidémies est une obligation prioritaire au regard du droit à la santé. Nous constatons au Burundi un manque de volonté de vacciner la population. L'autre obligation violée qui porte atteinte au droit à la santé, c'est l'obligation de dicter des mesures de santé publique pour barrer la contamination et la propagation, notamment les masques, l'hygiène des mains et la distanciation physique. Qu'est-ce qu'on constate au Burundi? C'est que, en réalité, il y a quelques mesures qui ont été édictées, comme le port du masque. Mais le port du masque n'est que facultatif, car ce sont les hautes personnalités politiques de l'État qui tiennent des réunions de masse sans porter de masque. Autre atteinte au droit à la santé, c'est la violation de l'obligation de non-discrimination. L'étude attire l'attention du gouvernement sur les conséquences de son refus d'agir qui, en cas de surveillance de malheur public, pourrait faire engager la responsabilité internationale de l'État burundais et la responsabilité pénale individuelle des membres de ce gouvernement.
Maître Emmanuel Ngengurutse demande au gouvernement burundais de répondre au programme de lutte contre cette pandémie de COVID-19 comme cela est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Suivez.
Nous recommandons au gouvernement burundais de prendre au sérieux la pandémie et de cesser les atteintes au droit à la santé. L'étude recommande en outre que la lutte de cette épidémie, qui est déclarée comme une urgence sanitaire de portée internationale, devrait revenir au gouvernement En tant qu'institution de définition de conduite des politiques nationales et qui constitutionnellement est redevable envers le peuple, il est de leur recommander que la lutte contre la pandémie soit l'affaire du gouvernement en propre sous la direction du président de la République, chef de l'État. Enfin, l'étude note qu'aucun prétexte de manque total de moyens n'est à évoquer, car pour la lutte contre une pandémie mondiale, le mécanisme de l'assistance et de la coopération internationale contribue à l'accroissement des ressources disponibles à l'interne, comme le confirment de nombreux dispositifs mis en place par l'OMS et d'autres partenaires techniques et financiers. Même les éventuelles sanctions frappant l'État ne s'appliquent pas contre le secteur sanitaire.
Inzamba.
La mutuelle de la fonction publique a un problème sérieux de subvenir aux besoins de ses affiliés à cause des impayés d'arriérés et des cotisations que les chefs des services tardent de verser. Déclaration de Annonciate Sendadilassa, directrice générale de la mutuelle. Elle appelle les administratifs dans tous les services de l'État à liquider tous les arriérés des cotisations du personnel sous leur responsabilité pour permettre à la mutuelle d'offrir un bon service à ses affiliés. Plus de détails avec Diane Mourounziza.
La mutuelle de la fonction publique risque d'avoir des problèmes financiers puisque les prix des actes médicaux et les prix des médicaments ont sensiblement augmenté. Déclaration de Madame Annonciate Sendadilassa, directrice générale de l'institution, et demande aux administratifs d'acheminer les cotisations des assujettis au brut et régulièrement.
Il faut vraiment cotiser comme ils doivent le faire au brut et régulièrement pour que nous puissions donner des médicaments. Les actes médicaux ont beaucoup augmenté. Et les premiers chiffres nous montrent que la mutuelle pourrait commencer à puiser même dans ses réserves en juin 2022. C'est pour cela que nous venons vers les assujettis, les administratifs, pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a un danger. Les cotisations vont augmenter puisque les actes médicaux ont beaucoup augmenté.
Annonciate Sendadilassa, directrice de la mutuelle, demande à ceux qui n'ont pas encore payé leurs arriérés de les régulariser le plus rapidement possible, aux médecins prescripteurs de toujours prescrire les médicaments en utilisant le nom de la molécule et non le nom et non les noms commerciaux qui donnent brèche aux affiliés de la mutuelle de toujours réclamer les médicaments spéciaux alors qu'ils ont la même capacité de soins que ceux appelés génériques, selon Madame Annonciate Sendadilassa. La directrice de la mutuelle a également annoncé le projet de son extension à la recherche des autres affiliés non fonctionnaires de l'État.
Désormais, lorsque les textes d'application auront été adoptés, la mutuelle ne soignera plus uniquement les fonctionnaires. La mutuelle pourra soigner également la population qui est dans différentes autres institutions, comme le Code de protection sociale qui date de mai 2020, le stipule bien, et nos textes sont terminés. Ce qui reste, c'est que on puisse les acheminer au gouvernement pour que nous puissions faire soigner toute la population.
Annonciate Sendadilassa a fait cette déclaration après une réunion avec les médecins prescripteurs des provinces du centre-est du pays, une réunion qui a eu lieu à Ruyigui. Son intervention vient après des lamentations des affiliés de la mutuelle qu'ils ne trouvent pas facilement les médicaments qui leur sont prescrits par les médecins soignants.
Pénurie du ciment produit par l'usine Buseco dans la commune et province Lumonge. Ceux qui ont des chantiers de construction ne savent plus où s'approvisionner. Cette situation a poussé la population à s'approprier de force la distribution du ciment provenant de cette société selon les sources sur place. Elle demande l'intervention de l'administration pour une distribution transparente et sanctionner ceux qui sont à l'origine de cette pénurie. Les détails avec Trifine Kaniwabo.
La journée de jeudi a été une journée noire pour un des grossistes du ciment de l'usine Buseco, Burundi Cement Company. Celui-ci venait de la ville de Bujumbura avec un camion chargé. Arrivé au marché central de Lumonge, les habitants lui ont barré la route, lui obligeant de décharger le véhicule publiquement et de vendre sur place le ciment. La police nationale à Lumonge est intervenue. En colère, la population n'a pas caché ce qu'il vit. On nous dit chaque fois que le ciment est introuvable sur le marché. Une fois arrivé, le lendemain, on nous dit que la quantité est épuisée. décharger, pas question de stocker. Nous achetons sur place, ici même. Chercher du ciment à Lumonge, c'est comme chercher du stupéfiant, selon les mêmes habitants locaux. Des vendeurs identifient d'abord l'acheteur avant de confirmer l'existence de ce produit. De là, on se convient sur le prix et on lui amène le ciment au chantier. Actuellement, un sac de ciment à Lumonge s'achète entre 32 et 35 000 francs burundais, alors que le prix fixé par le gouvernement est de 26 000 francs burundais. Sa carence et son coût élevé freinent des chantiers de construction en cours. Certains craignent que la saison des pluies leur trouve dans les chantiers non finis, surtout ceux touchés par la mesure du ministre de l'Intérieur obligeant de détruire des maisons se trouvant dans l'espace de 6 mètres de part et d'autres des routes nationales. Ces habitants de la province Lumonge demandent à l'administration locale de prendre la question en main. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore joint par téléphone le consolateur Nitunga, gouverneur de la province Lumonge, pour plus d'éclaircissements sur cette affaire.
Merci Tryphine, ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Vous étiez avec Josine Kazé. Au revoir et à la prochaine.